Et donc là, bien, je vais tout de suite donner la parole à Jean-Louis sur l'actualité de la commune. Jean-Louis, à toi.
Merci. Donc, oui, simplement un petit complément. À partir du 1er novembre, le livre sera mis en vente d'abord sous forme de souscription par les amis ES et amis S de la commune de Paris, puisque cette association a décidé il y a une dizaine d'années de changer son nom un peu historique en rajoutant amis ES à amis de la commune pour rendre hommage à une réalité sur laquelle je dirais quelques mots, qui est la participation des femmes à la commune de Paris comme un élément important. Alors, pour dire le mot, deux mots sur le film que vous avez vu, hein, je ne veux pas dire qu'il est fou à 100%, mais ce n'est pas très loin. Donc voilà, c'est un film extrêmement passionnant et émouvant pour moi, pour mon association, de voir des membres de l'association comme Nathalie Lemael, etc., être représentés en 1914, qui sont venus devant l'hôtel de ville, se faire filmer 40 ans après les événements. Et donc, de ce point de vue, c'est très émouvant, mais pour le reste, il y a énormément d'erreurs. Bien sûr, hein, et puis la présentation de la commune, vous l'avez vu, c'est 90% le 18 mars. Après, il y a une minute sur la proclamation de la commune, qui n'est pas vraiment la proclamation de la commune, parce que la commune, c'est devant 100 000 personnes réunies, place de l'hôtel de ville, c'est pas un petit comité comme ça de 8-10 personnes, et puis c'est pas 8-10 personnes, mais 90 personnes qui sont élues à la commune de Paris. Et puis jamais le comité central n'a envoyé de la garde nationale. Pour ceux qui ne connaissent pas, la garde nationale, c'est un peu le peuple armé hein, dans Paris, qui est dirigé par un comité central qui avait été s'était mis en place quelques jours avant l'insurrection. Jamais le comité central n'a envoyé aucun émissaire pour interdire l'exécution de Clément. Alors là, c'est une légende totale. Il n'a jamais ordonné l'insurrection de l'exécution de Lecomte et Thomas. Il a seulement publié le lendemain un communiqué, ni ne l'approuvant, ni ne la désapprouvant, indiquant que il n'avait aucune responsabilité dans cette exécution des deux généraux. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que la commune de Paris est presque résumée autour de l'exécution des deux généraux dans ce film. Quoi. Ça indique toute une série de problèmes de mémoire, de politique qui seraient très intéressants, mais qui nous désaxeraient complètement. Voilà. Et c'est aussi assez frappant de voir que effectivement, l'épisode des canons disparaît totalement, qui est l'épisode central du 18 mars sur Montmartre. Hein. C'est plus Thomas presque que Lecomte qui est mis en avant comme au processus mais ça, c'est des affaires vraiment de spécialistes. Mais donc, je dirais que c'est un film qui est passionnant du point de vue de la mémoire, du point de vue des moyens qu'ils ont dû avoir, etc., pour le faire, mais que vous ne pouvez pas retenir comme une base historique, ni au niveau des faits qui sont présentés, ni même au niveau de la compréhension, parce que ça démarre comme ça. Hein, on ne sait même pas que Thiers a pris un certain nombre de mesures avant contre le peuple de Paris. On passe de Sedan au 18 mars en oubliant qu'il y a eu un siège par les Prussiens. Enfin, voilà, donc c'est pas un film tout à fait, de ce point de vue-là, satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire, même s'il est passionnant du point de vue de la mémoire et aussi du cinéma. Il faut imaginer qu'il était accompagné de musique. Hein. En général, il y avait un pianiste hein, qui jouait. C'était moins silencieux que ce que vous avez eu comme ressenti.
Et des survivants, la présence des
survivants. Il y avait des survivants qui étaient là. Etc. Voilà. Mais il a été pas mal diffusé, mais la guerre est vite arrivée pour l'interrompre. Alors, je vais aborder le sujet parce que, évidemment, je me suis dit que le public serait très divers, mais je vais aborder le sujet un peu comme si vous connaissiez l'histoire de la commune. Donc, cette grande insurrection qui démarre le 18 mars, qui est une insurrection parisienne qui va se développer dans Paris, qui aura des répercussions en province, mais on n'aura pas le temps de l'évoquer. Le 26 mars, il y a effectivement, ça c'est exact, des élections à la suite de cette insurrection Et ensuite, il y aura, et c'est quand même là qu'il y a le plus d'intérêt actuel dans la commune, toute une série d'actions pendant les 60 jours où cette commune et le peuple en même temps dirige Paris. Et c'est frappant aussi de voir que cette insurrection se termine la dernière semaine par l'entrée des troupes versaillaises et on ne voit absolument pas non plus dans ce film le moindre écho de la répression et de la semaine sanglante qui termine la Commune de Paris. Alors, j'ai choisi d'aborder ça en montrant, parce qu'il me semble que c'est ça qui est essentiel, que, en fait, la Commune de Paris, c'est une insurrection extrêmement diversifiée, extrêmement complexe, qui a de multiples interprétations. Et c'est un peu de ces interprétations que je veux parler, parce qu'au fond, ces interprétations qui sont contradictoires, qui dialoguent entre elles, c'est un peu aussi la Révolution elle-même qui débat avec elle-même, parce que pendant toute cette période, la Révolution ne cesse de débattre avec elle-même, et c'est parce qu'elle débat avec elle-même qu'elle débat avec nous aujourd'hui. Ce sont les débats qui se passaient pendant la Révolution même, une révolution qui est tout sauf unilatérale, qui ne se prête pas vraiment à une seule interprétation. Chacune des interprétations sont passionnantes et discutables. Mais c'est justement ce débat qui fait que ça répercute dans la situation actuelle. Alors, et ce qui est frappant, c'est la richesse des interprétations de la Commune et la façon dont elles vont discutent parfois entre elles. Alors je les simplifierai outrancièrement et je montrerai des exemples à chaque fois qui me semblent montrer cette actualité de la Commune, y compris à travers ces débats et ces interprétations. Je laisse tomber l'interprétation lancée dès le lendemain de la Commune par le Parti de l'Ordre, c'est-à-dire les ennemis de la Commune. C'est celle que vous trouvez dans Maxime Ducamp, Les convulsions de Paris, qui en gros résume la Commune comme une insurrection d'une populace violente, dégénérée, tarée, où tous les communards sont des bandits, les communards des prostituées, etc., etc. Bon, je simplifie, mais je pense que peu de monde tiennent encore à défendre encore cette thèse, sauf quelques... Mais on ne sait plus où on en est actuellement. Peut-être qu'elle ressurgira. Mais pour l'instant, elle est devenue quand même, heureusement, fortement, fortement marginale. Je reviendrai sur d'autres interprétations qui sont pas celles-ci, mais qui quand même ont certains points qui s'associent à ça. Et vous voyez bien que, y compris dans le film, on voit bien comment l'interprétation de Guerra insiste finalement, même si c'est que sur le 18 mars, sur le côté violence de la Commune. C'est une insurrection, et c'est une violence exercée à l'encontre des ennemis de la Révolution, à savoir les deux généraux. C'est presque le résumé de la Commune qui vous est présenté, là. Donc, alors, j'en ai relevé donc cinq. Je dis tout de suite qu'elles interpénètrent entre elles, plus ou moins. Les deux premières sont voisines, mais elles sont souvent présentées comme très opposées. Et elles ont fait l'objet d'ailleurs de conflits assez sérieux, puisque dès les premières montées au mur des fédérés, dans les années 1880, les partisans de ces deux thèses en sont venus aux mains. Donc voilà un vieux consciencieux qui a des rejets. Alors la première de ces thèses, c'est la première parce qu'elle a été écrite, finalement je les présente un peu chronologiquement, elle a été écrite et elle a ses faiblesses parce qu'elle a été écrite très rapidement, bien sûr, elle est très connue, c'est la thèse de Marx, qui écrit dans la guerre civile son premier opus, qui est d'abord un travail de soutien, évidemment, de la part de Marx, du combat des communards et de la Commune, et qui a les faiblesses, évidemment, d'un exercice écrit dans l'immédiateté. Donc, sa connaissance de la commune, il a des correspondants qui lui envoient des textes, hein. Il lit toute la presse, mais cette presse elle-même, elle est très incomplète. Donc sa connaissance de la commune, et on pourrait reprendre point par point certaines erreurs. Donc en gros, pour Marx, la commune, c'est les prémices de la révolution ouvrière à venir. C'est quasiment... Alors après, il faut voir que dans la thèse de Marx, hein, a été elle-même prise, reprise, redéveloppée par beaucoup de courants marxologues, marxistes très différenciés, hein, elle n'est pas unilatérale. Mais en gros, pour résumer, la commune pour Marx, c'est une forme quasi inconsciente, pour prendre les thèses que les marxistes actuels reprennent, hein, c'est quasi inconsciente, parce qu'elle n'est pas formalisée, d'une forme de dictature démocratique du prolétariat, étape future vers le socialisme et le communisme. Hein. Donc, je cite, hein, la dernière ligne même de la guerre civile de Marx, qui dit l'idée centrale, « Le Paris ouvrier, avec sa commune, sera célébré à jamais comme le glorieux fourrier d'une société nouvelle. » Donc, c'est un exercice d'application de la théorie de Marx sur la lutte de classe est au cœur de l'histoire et elle est une aube. Engels, une vingtaine d'années après, va préciser la thèse de Marx et va la durcir en quelque sorte, hein, et va écrire dans une préface justement à la guerre civile, je cite... Regardez la Commune de Paris, c'était la dictature du prolétariat. Je cite cette présentation que Engels fait 20 ans après de la Commune de Paris. Alors évidemment, à partir de là, va tout se développer, la théorie donc cette formule-là, mais qu'elle a des insuffisances, et la principale de ces insuffisances de la Commune, c'est l'absence d'un parti organisé, structuré, pour diriger cette insurrection qui a été trop faible et qui donc servira ensuite au développement ultérieur des conceptions léninistes et autres. Bien. Donc, cette première thèse, hein, qui a donné ensuite l'objet à pas mal de bouquins, etc., s'articule sur... une thèse qui vient très rapidement, à peine après, qui est la thèse qu'on pourrait appeler libertaire, si on veut, hein, une seconde interprétation, qui est l'idée que, fondamentalement, c'est aussi une aube, la Commune de Paris, c'est l'aube d'une révolution à venir, qui est entièrement d'accord sur l'idée qu'il s'agit d'une révolution sociale qui est en cours, mais qui voit dans la Commune de Paris une remise en cause immédiate de l'État et de toute forme de gouvernement, de toute autorité, de toute domination. En 1871, hein, Bakounine, qui avait été le grand rival de Marx, vous le savez, dans la Première Internationale, Bakounine va écrire un texte en disant que la meilleure preuve de cette théorie, c'était que Paris s'était décapitalisé et que c'était cette indépendance de Paris qui conduisait à une négation de l'État. Je le cite, « Je suis le partisan de la Commune parce qu'elle a été une négation audacieuse, bien prononcée de l'État. C'est un fait historique immense que cette négation de l'État se soit manifesté précisément en France, qui a été jusqu'ici, par excellence, le pays de la centralisation politique, et que ce soit Paris, la tête et le créateur historique de cette grande civilisation française, qui en ait pris l'initiative. » Donc voilà, la Commune, c'est la négation de l'État, c'est le peuple s'autodirigeant. Alors là encore, on ne peut pas faire l'histoire des interprétations, mais... 20 ans après, Kropotkine a une lecture déjà très différente de celle de Bakounine, hein, de la Commune, puisqu'il dit que non, la Commune a bien été un gouvernement, Et de fait, c'est déjà 20 ans après, son interprétation est fondée. C'est bien une forme de gouvernement qui va diriger la commune avec l'assemblée de la commune, un gouvernement qui décrète et qui veut être obéi. Il faut être obéi pendant la commune. Les décrets, il faut les appliquer. Mais il s'est bien fait un gouvernement de la commune, que ce gouvernement de la commune, justement, a entravé la marche de la Révolution. Au fond, cette assemblée de bavards, entre guillemets, on le voit un tout petit peu dans le film, là, quand on les voit tous en train de bavarder entre eux et gesticuler. Ben, c'est accentué encore par la façon dont on faisait les films en 1912, où les personnages sont toujours beaucoup plus gesticulants du fait même de ce qu'on savait faire comme cinéma. Toujours, les gens sont... Ça, c'est le cinéma d'avant 1914 qui accentue les gestes. Hein. Mais effectivement, on voit bien cette théorie. Et donc... Kropotkine, dans plusieurs articles qu'il écrit dans les années 1880, explique qu'il s'est bien formé un gouvernement de la commune et que c'est justement ce gouvernement qui est responsable d'avoir entravé la marche de la Révolution, mais que le mouvement spontané même de cette Révolution, si elle avait pu se continuer, si Versailles n'était pas rentré pendant la semaine sanglante, le mouvement même de cette Révolution, écrit Kropotkine, aurait conduit à l'anarchie. Et voilà, c'est la thèse qu'il défend en 1880. Puis il y a encore beaucoup d'autres écrits, mais voilà, c'est deux thèses qui se sont beaucoup disputées et violemment, puisque je disais, par exemple, que dès les années 80, les anarchistes et les socialistes se bagarrent devant le mur des fédérés. Hein. Mais ce sont peut-être des polémiques qui sont bien éloignées. Alors il y a quand même il y a dialogue quand même dans ces éléments, dans ces deux thèses, bien sûr, sur révolution ouvrière. Vous avez vu dans les deux cas, révolution plus très ouvrière chez Marx, peut-être par sa conception de la lutte des classes. Il y a un point qui rend compte, c'est dans les deux cas, même si elle est formulée de façon assez différente, et ça c'est un point qui est passionnant et qui reste très actuel dans le débat de la Commune de Paris, c'est l'idée de la démocratie de la Commune. Et en gros, pour reprendre cette thèse de la démocratie de la Commune, les communards, effectivement, le voient bien dans l'appel que le comité central de la garde nationale fait pour les élections de la Commune. Il y a bien un rappel. Donc la commune mélange une sorte de démocratie représentative, on ne peut pas le nier, il y a bien des élections, et de démocratie directe, participative, assez complexe à définir, on ne va pas débattre, mais le comité central, lorsqu'il appelle au vote, aux élections municipales, vous avez vu le petit carton là, on dit plutôt élection à la commune à l'époque, ce texte rappelle que les élus de la commune doivent rester, en gros, je simplifie, sous le contrôle du peuple, hein, qu'il faut qu'ils soient issus du peuple, qu'ils ne soient pas ambitieux et qu'ils acceptent d'être soumis à un contrôle permanent du peuple. Donc, fondamentalement, l'idée de la commune qui revient faudrait repartir du contrat social de Rousseau, c'est-à-dire de ce passage où il explique que, il pose sous la forme du XVIIIe siècle, hein, quel est le pays le moins démocratique au monde, écrit Rousseau, et réponse, l'Angleterre. Alors, ça peut paraître paradoxal, puisque l'Angleterre, au XVIIIe siècle, est le seul pays où existe une certaine liberté, et où est élu sous un mode censitaire, c'est loin d'être encore la démocratie, mais il y a quand même une chambre qui vote les lois, qui nomme un premier ministre, et le pouvoir du roi est beaucoup plus limité que dans notre monarchie française, et dans tout le reste du monde, il n'y a pas encore les États-Unis. Donc, pourquoi l'Angleterre, explique Rousseau? Eh bien, tout simplement parce que les Anglais... ils se croient d'ailleurs le peuple le plus libre du monde, ne sont libres qu'un jour, le jour où ils votent. Et les années qui suivent, ils sont soumis à, au contraire, la dictature, je schématise, la plus féroce, puisque les élus ont désormais tout pouvoir. pouvoir d'autant plus renforcé qu'ils ont été élus. Étant représentants du peuple, personne ne peut dire qu'ils ont le droit, la loi. Et donc, ils ont pleine dictature jusqu'au jour, 4 ans, 5 ans après, où ce jour-là, de nouveau, le peuple est libre. Or, pour Rousseau, les choses sont claires. La démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Elle doit être permanente. La démocratie, la souveraineté du peuple ne peut jamais s'abdiquer. Ce n'est pas seulement un jour. Le peuple doit conserver son pouvoir tout le temps. Dès lors qu'il abdique son pouvoir, fût-ce aux mains d'élus qu'il a démocratiquement, admettons, désignés, eh bien, il n'y a plus la démocratie. Donc la vraie démocratie, ça c'est une des idées fondamentales des communards, c'est une démocratie permanente où le peuple n'abdique pas sa souveraineté. Voilà. Alors vous voyez, par contre, ça peut laisser place à un gouvernement, éventuellement, hein, c'est là que ça peut partager Marx et Bakounine, hein, mais au moins, ça, c'est une idée fondamentale qui se retrouve dans les deux éléments. La commune va essayer de faire fonctionner ce système, hein, là, on n'a pas le temps d'y revenir, mais évidemment, c'est tout ce système, ce tissu, notamment, d'assemblées populaires extrêmement abondantes, hein, qui se tiennent pour la commune. C'est d'une exigence folle. Hein. Les assemblées populaires qui se tiennent pendant la commune, c'est quasiment, pour la majorité d'entre elles, tous les jours, tous les soirs. Alors, je ne sais pas si sur la longue durée, on peut se rassembler tous les jours, tous les soirs, pour discuter des affaires du peuple, comme on disait. Hein. Donc voilà, ces formules de trouver les moyens pour que les propositions, ces propositions qu'ils ont votées dans ces assemblées populaires, soient prises en compte par l'assemblée de la commune, c'est-à-dire les 90 élus que j'évoquais tout à l'heure, qui siègent à l'hôtel de ville. Donc ça, c'est un point absolument fondamental qui est évidemment encore extrêmement contemporain dans nos débats. Que la commune a instauré sur la démocratie permanente, sur la démocratie, c'est un point clé. On peut d'ailleurs y rajouter, alors, et y compris, on peut voir la façon dont ils, on n'a pas le temps de le voir, dont ils essaient d'articuler justement démocratie représentative, puisqu'ils ont fait des élections, et démocratie directe permanente. Mais je ne fais que présenter les points. Il faudrait consacrer une heure au moins à la réflexion concrète du fonctionnement de ça. De la même façon, hein, je dirais que cette démocratie est poussée par leur sens de l'égalité. Et justement, je vais citer là deux faits, hein, qui sont significatifs. Si je vous demandais de me citer le nom du président de la commune, le nom du maire de la commune, je ne pourrais pas parce qu'il n'y en a pas. Donc, ils ne veulent pas de chef. Il n'y a pas de chef de la commune. Alors là, dans le film, on en voit un qui est un peu au centre, dans ce faux tableau d'une réunion de la commune, hein, qui représente vaguement Delescluze, en fait. Hein, c'est ce qu'il avait voulu représenter. C'est le personnage un peu le plus... l'ancien de la commune, c'est Delescluze, il a une certaine autorité par certains côtés. Et donc, mais il n'y en a pas. Leur premier débat, c'est on ne va pas élire un président ou un maire de ce conseil municipal, de cette la commune, ça a deux sens. C'est la révolution, puis c'est l'assemblée communale. On mélange toujours les deux sens. Quand on dit la commune, parfois, on veut dire c'est une période révolutionnaire. La commune fait ça. Et on ne sait plus trop qui fait ça. Justement, c'est l'ambiguïté du mot. Mais la commune, c'est aussi parfois l'assemblée communale. Hein, quand on dit c'est elle qui décrète, qui fait les lois de la commune. Alors, il n'y a pas. Hein, ils ne veulent pas. Leur première décision, c'est... ce sera une présidente tournante, c'est-à-dire que ça ne doit jamais être le même qui préside l'assemblée communale. Alors, ça, c'est typique de la commune. De la même façon, dans les arrondissements, Ils ne veulent pas de maire d'arrondissement. Pas question, hein. Donc ça ne peut être que soit les élus, soit des délégués qui seront, qui font collectivement la direction des mairies d'arrondissement. Voilà. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de maire. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'après, quand vous changez de président tous les jours, le suivi de certaines choses, ce n'est pas facile. Oui, parce qu'ils se réunissent quasiment tous les jours. Enfin bon, pas tout le temps, mais c'est compliqué, etc. Mais en gros, ils se réunissent presque tous les jours. Le lendemain, c'est un autre président qui succède, qui doit reprendre les dossiers du précédent. C'est pas toujours simple dans la continuité des tâches, hein, évidemment. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée d'égalité profonde qui fait qu'on ne veut pas de chef. Ça ne signifie pas que dans l'Assemblée communale, c'est un autre problème de démocratie, il n'y ait pas des gens qui comptent plus. Dans mon travail que j'ai effectué, un peu trop long, de 1500 pages, qui va paraître, mais je me suis livré, entre autres, au long décompte des interventions dans les séances de la commune. Il y a 8500 interventions pendant les séances de la commune. Ces 8500 interventions, il ne faut pas croire que les 90 élus se les partagent également. Il y a des gens qui parlent beaucoup et il y en a qui ne parlent pas beaucoup. Et ceux qui parlent beaucoup, hein, 70% des interventions sont faites par 0,5% de la population. En gros, ceux qui parlent le plus, c'est ce qui correspond à 0,5% de la population. C'est très populaire. L'Assemblée elle-même, ce sont des gens très divers, hein, et avec une participation ouvrière comme on a jamais revu dans la commune, dans des chambres. Hein. On n'a jamais revu autant d'ouvriers dans une chambre que pendant la commune, même s'ils ne sont pas majoritaires, ce qui rend compliqué la thèse de Marx. Mais ceux qui parlent le plus, c'est 0,5%, c'est quoi? C'est les bacheliers. Regardez ceux qui sont ou non bacheliers. En 1871, vous avez être bachelier, c'est 0,5% d'une classe d'âge. Entre 0,5% et 1%. Ce n'est pas 70% comme maintenant. Ce n'est même pas les 10-15% qu'au moment du Front populaire. Ça fait du bruit. Excusez-moi. Ce n'est même pas les 10-15% à l'époque du Front populaire. Ce n'est même pas 1% d'une classe d'âge qui est bachelier. Vallès, c'est un bachelier. Mais c'est exceptionnel d'être bachelier à l'époque. Ça ne veut pas dire qu'il est un riche, etc. Il y a des difficultés. Mais socioculturellement, il est complètement différent de la grande masse de la population. Donc, remettre en cause les dominations socioculturelles, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Voilà. Donc, vous voyez, la commune, ça pose tous les problèmes. Ça pose tous les problèmes. Autre exemple de cette égalité, c'est le fait que la commune ait accepté les étrangers au sein de ses membres. Une de ses premières décisions, qui est que, au principe que... Parce qu'un élu de la commune, Léo Frankel, est élu dans le 13e arrondissement. Donc, ce qui est décidé par la commune, c'est est-ce qu'on doit l'accepter?
Il est de quelle nationalité?
Hongrois. Enfin, austro-hongrois, mais de fait, hongrois. Membre de l'Internationale et ouvrier, bijoutier, etc. Bon. Et il a été élu dans le 13e arrondissement. Et donc, la première décision qui réfléchit, c'est est-ce qu'on peut accepter un étranger dans notre assemblée? Et au principe que la commune est... participe de la République universelle, les citoyens étrangers qui veulent la servir sont admis. Et donc, un étranger est accepté dans ce conseil, ce qui est loin d'être encore le cas dans notre société 150 ans après. Donc voilà, vous voyez des points qui montrent l'actualité de la commune et qui s'articulent, vous voyez, de façon assez complexe aux deux interprétations que je vous ai données. J'évoquais tout à l'heure justement l'idée de Bakounine sur l'indépendance de Paris. bon, il est clair que les Parisiens, les Parisiennes ne voulaient pas de l'indépendance de Paris. Hein. Ils étaient quand même assez attachés à ce que leur ville reste la capitale. Hein. Et d'ailleurs, les ruraux n'étaient pas très bien vus. C'est l'ennemi du fédéré, comme on disait, ou du communard, on ne disait pas communard à l'époque, on disait plutôt fédéré, parce que c'était la fédération de la guerre nationale. L'ennemi des communards, ce sont les ruraux qui ont envoyé à Versailles une assemblée réactionnaire. Hein. Donc ils pensent, je vous montrais d'innombrables textes où ils disent que nous, les Parisiens, nous avons civilisé ces barbares de paysans qui comprennent rien, hein, alors que nous, on a tout compris sur la révolution à faire. Hein. Donc, ils sont pas. Les rapports Paris-Province sont loin d'être simples pendant la Commune. Mais c'est un autre objet. Mais ce qui est vrai, c'est que dans cette célèbre déclaration, célèbre, je ne sais pas si vous la connaissez, mais dans la déclaration que la Commune fait au peuple français le 19 avril, en gros, c'est une déclaration totalement fédéraliste. Ils appellent à reconstituer la France, en quelque sorte, par une fédération de communes, chaque commune ayant ses pouvoirs, et la France fédérale reconstituée, parce qu'ils sont très partisans de la France. Hein. Je rappelle quand même, parce qu'il n'est pas inutile de le souligner, que le drapeau de la commune, c'est bien sûr le drapeau rouge, mais le chant principal que tout le monde chante pendant la commune, que chantent les bataillons de la garde nationale lorsqu'ils vont au combat contre les Versaillais, c'est la Marseillaise. Hein. Le chant de la commune, c'est la Marseillaise. On le chante partout, tout le temps. Aux Tuileries, dans les grandes fêtes, c'est ça qu'on chante, c'est la Marseillaise. Hein. Toujours très compliqué. C'est pour ça que j'ai dit au début que la Révolution débat avec elle-même et débat avec nous. Et donc, cette République fédérale qu'ils envisagent, donc, avec des communes qui auront un champ d'indépendance, un champ de pouvoir, et puis une fédération qui va reconstituer cette France avec une autonomie, avec ce fédéralisme. D'où vient ça? Alors, d'où vient d'abord même que c'est une commune? Ça vient de phénomènes même propres. Hein, c'est là qu'il faudrait parler du siège, du fait que les Parisiens ont vécu fermés pendant 4 mois. Quand vous avez vécu fermé, encerclé par les Prussiens pendant 4 mois, vous avez eu une forme de vie propre. Donc il y a tout un certain nombre de faits qui se sont développés pendant le siège, mais ça je ne peux pas le développer, mais c'est ce qu'on pourrait appeler un intentionnalisme, non plutôt un fonctionnalisme, mais fondamentalement ça vient des thèses de Proudhon, qui a beaucoup d'influence pendant la Commune, même si c'est un Proudhon un peu rougi, hein, qui est présent dans la Commune de Paris, mais ça vient des thèses fondamentales de Proudhon, qui est que les individus doivent conserver un maximum de pouvoir et que tous les systèmes nécessaires, évidemment, Proudhon est conscient que l'homme est un être social, mais que toutes les associations que les humains font entre eux, que ce soit au travail ou dans la cité, ces associations doivent entraîner le moins de domination possible sur l'individu. Donc le contrat qui va s'opérer entre les individus doit être un contrat qui laisse le maximum de liberté aux individus et qui doivent déléguer le moins de pouvoir possible à l'échelon au-dessus. Et c'est pareil dans la conception du fédéralisme qu'il explique dans les principes du fédéralisme, Proudhon, livre très intéressant, et où il explique que c'est pareil pour les communes, en quelque sorte, si les communes ont besoin de se fédérer, elles doivent conserver le système qui doit se fabriquer, doit laisser aux communes le maximum de pouvoir possible par rapport à la fédération au-dessus, et ainsi de suite. Voilà, l'idée de base, c'est celle-ci. Toujours l'échelon inférieur d'un regroupement, l'échelon le plus petit, doit conserver le plus possible de sa liberté contre l'inévitable un peu domination du regroupement au-dessus auquel on va déléguer un certain nombre de choses, évidemment, mais le moins possible. Voilà. Et de là est ce principe qui est très, très, qui est présent et qui est adopté d'ailleurs, curieusement, on peut discuter, à l'unanimité des communards, même par les plus jacobins, mais ça, c'est un problème de circonstance. Donc ce fédéralisme hein, n'était pas sans poser des problèmes. Hein. Il en posait des problèmes à beaucoup de débats dans la commune. Hein. Par exemple, sur la question de l'éducation, ce n'était pas simple. Donc pour les communards, évidemment, mais ça, c'est une évidence, l'école serait laïque et démocratique. Je pense que vous le verrez largement, toutes les grandes conceptions que la commune aura. Mais où le débat a été tout de suite beaucoup plus compliqué, et moi, j'ai épousé l'intégralité des 42 journaux communards. Hein, donc, j'ai fait afficher de 15 000 articles pour avoir l'intégralité des points de vue de la commune. On voit bien qu'il y a des débats qui viennent sur laïciser l'école. Oui, l'école publique doit être laïque, mais même plus que pour eux, l'école communale, ça va plus loin. Mais donc, ça doit être laïque, il faut chasser les frères et les sœurs. Je rappelle qu'à l'époque, c'était encore la présence de la religion dans l'école était acceptée. Bon, vous verrez ça dans la conférence de Hugues, je pense. Et donc, mais le débat, il vient de est-ce qu'on école laïque ou pas ? Est-ce que ça, c'est du ressort de chaque commune ou d'une décision nationale ? Ah, mais si on dit que c'est chaque commune décide que son école peut être laïque ou religieuse, ah ben alors là, dans les régions réactionnaires tenues par les Hobereaux, ben on aura toujours une école religieuse. Donc là, par contre, ah ben non, là, par contre, il faut que ce soit la nation qui intervienne et qui dit touc-touc, l'école publique, elle sera partout, privée, c'est autre chose, mais l'école publique, communale, elle sera partout laïque. Ça, c'est pas du ressort de la commune de décider si l'école, elle est publique ou si elle est laïque ou religieuse. Vous voyez le débat. Hein, vous voyez le débat qu'ils ont dans la presse hein, sur est-ce que c'est les niveaux de subsidiarité, comme on dirait maintenant, qu'il faut avoir. Ça aussi, c'est une question très passionnante. Ils ont la même chose sur la justice, parce qu'ils se disent, est-ce qu'on peut faire une justice parisienne ? Est-ce que ça a un sens de dire, on va décider... alors, je ne sais pas, c'était pas... On pourrait venir sur les questions de la peine de mort, hein, magnifique fait qu'ils ont brûlé la guillotine, hein, mais est-ce qu'on peut décider, par exemple, de supprimer la peine de mort à Paris ? Quel sens ça a de faire une justice avec un code pénal, puisqu'il y a désormais un code pénal en France, un code civil, mais aussi un code pénal qui s'est mis en place, un code pénal qui serait propre à Paris. Alors que, quand même, les gens n'arrêtent pas de bouger, etc. Et alors, il y a des discussions sur le modèle américain aussi qui jouent dans la commune. Vous avez des débats sur la police, c'est assez amusant, parce que actuellement, bon, on peut détester la police, bien sûr, mais il y a des débats, par exemple, sur police nationale ou police municipale. Alors, en général, les gens de gauche sont plutôt pour la police nationale. Hein ? On t'entend, surtout, les mairies de gauche, surtout pas de police municipale. Bon, ça s'est généralisé sous la pression du zémourisme et compagnie. C'était plutôt ça. Hein. Mais à l'époque, pas du tout. Hein. Par contre, ça, pour la commune, il n'y a aucun problème. La police ne peut être que municipale. Il n'est pas question qu'il y ait une autre police que cette qui soit faite par les citoyens eux-mêmes. C'est même pas une police municipale qu'ils veulent. C'est le peuple armé qui fait sa police. C'est ce que vous avez vu, c'est la garde nationale. C'est la force de la police de la commune, c'est la garde nationale. Parce que la garde nationale, elle combat, pendant la guerre civile, mais elle fait aussi la police courante. Il y a une légende qui dit qu'il n'y a pas de vol pendant la Commune. Non, pas du tout. Il y a énormément de vols pendant la Commune. Il y a énormément de délinquance, si vous plongez dans les faits. Ça, c'est une pure légende. Il y a énormément de délinquance et énormément de vols parce que c'est une situation d'extrême misère pendant la Commune. Hein. La Commune, fondamentalement, c'est une région qui se passe dans une grande misère. Il y avait déjà une avant l'Empire, mais moi, ce qui m'a frappé le plus en dépouillant les archives, c'est l'énormité de la misère pendant la Commune. Il n'y a pas de travail. Un des problèmes qu'ils vont avoir, donc c'est rempli de gens qui cherchent à manger. Donc voilà, ça, c'est un problème que je n'ouvre pas, mais que je développerai beaucoup dans mon livre, parce que ça, c'est absent totalement de l'historiographie. Que la Commune, c'est une révolution dans une des périodes où on parle toujours de la misère sous l'Empire des Parisiens, des ouvriers, etc., mais la misère pendant la Commune, je peux vous dire qu'elle est terrifiante. Et que c'est une des questions à laquelle ils ont du mal à répondre, entre la temporalité des exigences immédiates et la temporalité des mesures qu'on peut prendre.
Est-ce qu'on laisse un peu la parole à la salle?
Oui, j'ai fini. J'ai fini dans une minute. Donc voilà, j'ai fini par deux questions qui montrent toujours les mêmes complexités, hein, qui sont les deux dernières théories sur lesquelles je ne développerai pas. Il y a une théorie qui, au contraire, voit dans la Commune, non pas une aube, mais il faut l'évoquer, mais un crépuscule. C'est-à-dire que la Commune est la dernière révolution du XIXe siècle. C'est un fait, et aussi même la dernière révolution, en tout cas française. Donc, cette théorie, c'est que la Commune clôt un cycle d'insurrection, qu'elle est la fin d'une époque, et qu'au contraire, on a atteint, alors que la Commune a eu un effet, hein, a pu avoir un effet sur cette République, mais que, en partie grâce à la Commune, bon là il y a des débats, la République, pas la vraie République, mais en tout cas la République a été instaurée, et un système de régulation a été instauré, qui est fondamentalement la République, soit la troisième, la quatrième ou la cinquième, et que le cycle des insurrections en France est terminé. Donc la Commune, qui a des arguments sur lesquels je ne peux pas développer, longuement, et la Commune est donc plus un crépuscule qu'une aube. Évidemment, la lecture de ça, il y a beaucoup d'arguments. Hein. Toutes ces thèses ont des fondements, vous voyez, c'est ça qui est complexe. Ce n'est pas des thèses qui sont qui n'ont pas des arguments. Hein. Cette thèse a été beaucoup défendue par un très grand historien de la Commune, mais qui l'a après nuancé, qui s'appelle Jacques Rougerie, hein, mais qui disait, effectivement, une aube, non, un crépuscule, en 1964. Il a nuancé après, mais c'est une thèse qui a beaucoup de partisans encore dans l'université, etc. Et la dernière thèse qui est venue s'ajouter, c'est la thèse d'un historien anglais conservateur qui s'appelle Robert Tombs et qui a été curieusement publié dans une édition Libertalia, mais qui est quand même une conception fondamentalement guidée par l'idée que, je l'achève là, que la Commune, au fond, pour cet historien membre du Parti conservateur, qui est un des conseillers de Boris Johnson, hein, Robert Tombs, la Commune est un accident. Je schématise, mais c'est ça. Un accident même presque malheureux compte tenu du drame de la Commune, du drame sanglant de la fin. Pourquoi c'est un accident? Parce que Trump fait partie de ceux qui pensent que le sens de l'histoire, contrairement à Marx ou Bakounine que j'évoquais au début, bien sûr, qui ont leurs différences, mais qui ont cette même perspective. L'aboutissement de l'histoire, c'est le libéralisme économique et politique. Quand vous pensez que l'aboutissement de l'histoire, c'est le libéralisme économique et politique, la Commune, c'est un accident malheureux. Hein, donc voilà, vous voyez que ces thèses, il y en a encore la cinquième, mais je ne l'évoquerai pas, parce qu'effectivement, je y répondrai, si vous voulez, dans les questions. Et je pense que ce qui est donc de passionnant, la Commune, parce qu'on aurait pu faire aussi bien aussi des choses extrêmement significatives, comme réfléchir sur le rôle des artistes et l'autogestion, sur la place des femmes... Que vous allez étudier, qui est un élément extrêmement important dans la Commune de Paris. Donc, et sur chacune des questions, vous verriez fonctionner dans la Commune des questionnements qui résonnent aujourd'hui. Ce sont ces questionnements, ce débat que les communards avaient, parfois entre eux, qu'ils ont eu tout le temps, qu'ils ont encore avec nous, qui fait, à mon sens, l'actualité de la Commune. Je vous remercie.
Voilà, merci Jean-Louis pour tout ça. On souhaiterait que vous puissiez vous exprimer, si vous le souhaitez, donc soit des questions auxquelles Jean-Louis pourrait répondre, soit des commentaires, soit des approfondissements. Vous êtes les maîtres de la salle, sachant que tout ce qui est dit est en direct sur Radio Libertaire.
Moi, je voulais rebondir sur le point de vue de la confrontation des mémoires, le fait que c'est un objet qui est très complexe parce qu'il y a différentes réalités qui s'affrontent, la réalité des Versaillais, la réalité des fédérés. Et dans le contexte de la montée de l'extrême droite, est-ce que c'est pas un peu dangereux, justement? J'entends beaucoup de gens de droite, enfin des historiens, enfin des pseudo-connaisseurs qui en font un mouvement nationaliste et patriote. Parce que justement, il y a cette complexité entre des thèses extrêmement anti-autoritaires et, on va dire, de gauche, et en même temps des éléments historiographiques qui peuvent rappeler la Révolution française.
Ce qu'on me propose, Jean-Louis, c'est que tu prends 2-3 questions et tu répondras en masse.
D'accord, oui.
D'abord, je voudrais te remercier pour cet exposé que je trouve formidable, hein, au niveau documentation et déduction que tu fais. Alors, je voudrais juste insister sur 2 petits détails, ou 3. Alors, le premier, je ne suis pas sûr que Armand Guerra ou Armando Guerra, il n'ait pas eu une interprétation technique dans sa façon de filmer, et qu'il n'ait pas été interrompu par des trucs financiers, mais je n'ai pas revu les sources espagnoles, donc c'est juste une interrogation. Et puis, entre Marx et Bakounine, je pense qu'il y a un ou deux aspects en plus, c'est que Bakounine remarque que Marx, dans ce qu'il a écrit, dit le contraire de ses idées. Et je pense que c'est très important, parce qu'il y a une phrase de Marx qui dit, dans La lutte des classes, hein, le texte que tu as cité...
Non, c'est La guerre civile.
La guerre civile, pardon. Il dit, la Commune a prouvé que l'État ne sert pas. Il faut passer tout de suite à la Commune. Alors, c'est une petite phrase, mais qui, évidemment, détruit complètement le schéma du manifeste communiste. Hein. Ah bon, pardon. Et puis, ensuite, ce qui est très important, et qui démontre le fond de la pensée de Marx, c'est qu'il se fout complètement de ce qu'il a écrit. Hein. Le pouvoir à l'Assemblée, en 1872, pour le congrès de La Haye, dans l'AIT, ça n'a pas du tout été appliqué. Marx n'a jamais revendiqué ce schéma jusqu'à sa mort. Hein. Bon, mais ça fait... c'est pas grave. Deuxième chose, il a quand même écrit ce passage où il approuve que les fonctionnaires gagnent moins au point de vue salaire que les ouvriers. Et c'est repris par Lénine dans son fameux livre qui reprend le titre de L'État et la Révolution d'Arnoux, qui est un éloge du fédéralisme, pas du tout de l'État. Et c'est intéressant parce que quand Lénine cite ce texte, traduit évidemment, écrit en russe et après traduit en chinois ou en chinois officiel, sinon langue chinoise, c'est le point de départ d'une réflexion anarchiste parmi les camarades obligés de lire Lénine. D'ailleurs, c'était un des textes les plus, disons, les moins lus de Lénine dans le schéma officiel du marxisme-léninisme. Hein. Bon. Et puis, dernière chose, pour finir, c'est qu'une révolution qui est suivie d'élections libres, historiquement, je crois qu'il n'y a pas d'autre exemple. Bon, c'est tout. Par exemple, en Espagne, après le 19 juillet 1936, il n'y a pas eu le temps de faire des élections, mais personne n'a proposé de refaire des élections. Bon, c'est tout.
Voilà, peut-être peux-tu répondre, parce qu'il est déjà 55. Hein. Une dernière question, peut-être.
Oui, ma question va être rapide. Hein. Je sais que pendant la Commune de Paris, t'es pas mal discuté plein de choses, évidemment, comme vous l'avez dit, mais notamment la notion de mandat impératif, qui me paraît quelque chose à la fois historique et très actuel, puisque si on imagine un fédéralisme et tout ça, on va passer par des délégués, et ces délégués, est-ce qu'ils vont respecter le mandat pour lequel... Et je sais qu'il y a eu un débat assez important au monde de la Commune de Paris, et je pense qu'il y a encore des débats aujourd'hui autour de ça. Je rappelle quand même que dans la Constitution française, le mandat impératif est interdit. C'est pas un hasard.
Oui, alors effectivement, la récupération. Ah oui, je continue. Ce tic fatal. Je m'excuse à tous les auditeurs et les auditrices. Hein. Si vous entendez des petits tic-tic, c'est pas la technique qui est responsable, c'est moi. Voilà. Donc, vous savez que dès Barrès hein, a écrit. Dans les années 1880, écrit comme quoi le nationalisme, la Commune, était une grande révolution nationaliste, et que eux, nationalistes, revendiquaient d'être les héritiers de la Commune de Paris contre le cosmopolitisme bourgeois. Hein, que, voilà, donc c'est pas totalement inédit de voir. Nous, aux amis de la Commune, qui nous arrivait quelquefois, je ne sais plus, mais nous avions le Front National qui venait déposer la veille de la montée au mur une couronne hein, de fleurs en hommage à la Commune de Paris. Cette couronne que les amis de la Commune faisaient disparaître. Si on considère que le Front National n'a pas déposé une couronne au pied du mur des fédérés. Soit dit en passant, dans le film de Guerra, autre erreur, le mur que vous avez vu n'est absolument pas le mur des fédérés. Hein, c'est le monument de Moreau-Vellatier qui est à l'extérieur de la Commune de Paris, et qui n'est pas un monument en hommage à la Commune, mais aux victimes des révolutions, c'est-à-dire des deux côtés, hein, finalement, Versaillais comme fédérés. Un monument à une sorte de pacifisme hein, à hugolien voulant et dans les mémoires de la Commune aussi bien sûr c'est pas vraiment une interprétation mais c'est une mémoire qui en fait a été la mémoire dominante bien sûr c'est la mémoire du silence hein. C'est la mémoire du sens qu'a pris l'amnistie qui est votée en 1880 et avec ce célèbre discours de Gambetta hein, qui dit que il faut amnistier, c'est plus possible. C'est juste avant le 14 juillet où on va faire une grande fête républicaine et patriotique avec le défilé des nouveaux régiments de la France enfin reconstitués après 10 ans. Et il faut que les Français se réconcilient. Et donc, il faut absolument l'amnistie. Bien sûr, il y a aussi Hugo qui joue, mais c'est un autre problème. Il faut absolument l'amnistie, mais cette amnistie doit signifier qu'il faut faire le silence désormais sur cet événement qui a divisé les Français. Hein. Et donc la mémoire dominante que la République, elle va vouloir installer, c'est la mémoire du silence sur l'événement. Hein. Et c'est contre ça que les communards de retour d'exil, puis l'association, dans sa diversité, car notre association, justement, a pour idée de ne choisir entre aucune interprétation, de retrouver l'importance de cet événement et du combat des communardes et des communards. Voilà. Donc la mémoire patriotique peut effectivement se retrouver, puisque il est évident et incontestable que les communardes et les communards sont patriotes. Voilà, il y a quelqu'un qui proteste. Sur mon extrême gauche, il y a une protestation dans l'Assemblée. Donc il est clair qu'ils sont patriotes, qu'une des causes, de leur insurrection, c'est leur refus de céder l'Alsace-Lorraine. Et vous avez un bataillon d'Alsaciens lorrains qui participe au combat de la Commune de Paris. Hein, parce qu'ils sont aux côtés de la Commune dans le fait que le traité de Versailles est une trahison de la patrie. Hein, et donc ça, c'est absolument incontestable. Historiquement, là, les faits sont innombrables. Et même, parfois, on a des signes de xénophobie qui sont présents, hein, que je ne vais pas développer, mais qui existent dans la commune de Paris. En même temps, et c'est absolument fondamental, alors, ça c'est totalement différent, ils se pensent totalement membres d'une république universelle. Ils sont universalistes, ils sont persuadés. Alors, évidemment, plus les uns que les autres. Il est certain que ceux qui sont à l'international, à l'AIT, se pensent comme une composante d'un mouvement international du travail et qu'ils ont des perspectives bien plus élaborées que d'autres. Et qu'il y a là aussi parfois des jeux de tension qui peuvent se faire. Mais fondamentalement, on le voit dans le fait que... Et donc, ceux qui se réclameraient de la Commune comme un mouvement exclusivement comme ça, patriotique et xénophobe, on le voit dans la participation, on pourrait faire un texte là-dedans, des étrangers à la Commune de Paris. Les étrangers ont une place extrêmement importante dans la Commune de Paris, y compris alors au plus haut niveau du régalien, entre guillemets, ce qu'on appelle régalien, c'est-à-dire de l'armée de la Commune, hein, où beaucoup de chefs de la Commune sont des étrangers. Mais pas seulement, parce qu'on parle toujours de l'exemple des généraux polonais, deux des trois généraux de la Commune sont polonais, Dąbrowski et Wroblewski. Donc c'est quand même quelque chose de notoire, hein, sur ce rôle. Mais pour moi, plus important, c'est de reprendre les procès-verbaux d'élection. On les retrouvait pas mal dans les archives, puisque vous savez que la garde nationale, les officiers de la garde nationale, les commandants des bataillons, les lieutenants des compagnies, etc. Sont les capitaines des compagnies sont élus. C'est une garde démocratique où les officiers sont élus. Et aussi révocables, d'ailleurs, ce qui n'est pas toujours facile, vous le concevez, en pleine guerre, de révoquer ses propres officiers. C'est aussi des problèmes qui sont quand même posés sur le fonctionnement et la réussite de la commune, de dire « on n'est plus content de toi comme capitaine, on te change ». Mais ce qui est très intéressant, c'est de constater que il n'hésite pas à élire des étrangers. Ce n'est pas seulement un choix du haut en disant on prend Dąbrowski ou Wroblewski parce qu'ils ont eu l'expérience du commandement pendant l'insurrection polonaise de 1863 de troupes, hein, effectivement. Il y a eu une grande insurrection en Pologne en 1863 contre l'Empire russe. Et il y a eu des combats qui avaient dépassé une insurrection urbaine. Et donc, ce n'est pas seulement le choix technique d'avoir pris des gens qui avaient une certaine expérience militaire, comme ces deux officiers polonais, réfugiés à Paris après 1863, mais c'est aussi, on voit par exemple, les immigrés les plus nombreux à l'époque, qui ne parlaient pas bien français, hein, de de très loin, la principale immigration, c'est l'immigration belge, mais massivement une immigration belge flamande. C'est-à-dire que ce sont des immigrés belges, il y a des Wallons, hein, bien sûr, qui parlent français, mais c'est surtout massivement ceux qui viennent, les plus pauvres de l'époque, de la Belgique de l'époque, c'était les Flamands. Ce sont des Flamands qui ne parlent pas très bien français ou mal, qui sont élus. Très grand nombre de Belges, d'Italiens, sont élus officiers de la garde nationale. Donc là, on a quand même quelque chose qui répond assez fortement à cette idée, même si, effectivement, c'est ce que je dis toujours, cette révolution ne cesse de débattre avec elle-même, et on n'a pas le droit de la simplifier. Ils sont aussi patriotes. Alors bon, je suis totalement d'accord sur Marx.
Je suis désolé de jouer le mauvais rôle, c'est-à-dire celui qui dit « bon, faut qu'on s'arrête ». Mais on nous avait dit midi, il y a même à ma montre midi 7, midi 8. Donc merci, on pourra peut-être continuer le dialogue hors de cette salle. Et donc on se retrouve, d'abord on te remercie pour cet éclairage tout à fait intéressant. Et je donne rendez-vous quand son livre sera publié, car évidemment il sera en vente à Publico.
Il sera en vente en souscription d'abord.
Et après,
en vente.
Voilà. Et donc, pour nous, on se retrouve à 14h pour voir d'autres communes que la commune de Paris. Merci, à tout à l'heure.
Merci.
Philippe, la boisson est à l'extérieur. Le repas au bar.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, on va clore cette séquence par un titre de Serge Girouillo concernant la commune, bien évidemment. Et on se retrouve en direct du LAP. Je vous rappelle l'adresse pour ceux qui voudraient venir nous rejoindre. Le lycée autogéré de Paris, c'est au 393 rue de Vaugirard, dans le 15e arrondissement. On se retrouve en direct à 14h. À tout à l'heure.
On l'a tué à coups de chassepot, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte.
Comme faucheurs rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas
que la commune n'est pas morte. On a bien fusillé Varlin, Flourens, Duval, Millière, Ferré, Rigaud, Tony Moilin, gavé le cimetière. On croyait lui couper les bras et lui vider la horte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas
que la commune n'est pas morte.
Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achevé les blessés dans leur lit d'ambulance, et le sang inondant les draps, ruisselé sous la porte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas
que la commune n'est pas morte. Les journalistes policiers, marchands de calomnies, ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas, ont vomi leur eau forte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas
que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune.
du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier « Vive la commune !»
Et ça prouve à tous les Judas si ça marche de la sorte.
Ils sentiront dans le nom de Dieu que la commune n'est pas morte.
Ils sentiront dans le nom de Dieu que la commune n'est pas morte.